cette bienfaisante pause de café, remettons-nous au travail. Et terminons cette réflexion sur le parallèle que nous avons fait entre nos efforts pour développer sérieusement les pastorales et peut-être notre point faible de ne pas avoir fait autant d'efforts pour revaloriser les pasteurs que nous sommes. J'aurais le goût de faire ici une petite caricature très simple et amusante à la fois. Et je me sers de cette image dans des cercles privés, bien entendu. Et l'Église, à certains points de vue actuellement, me donne l'impression d'être une cité moderne où on a vraiment établi tout ce qu'il y avait en fait de lampadaires, de signaux lumineux, d'indicateurs routiers électroniques possibles, où on est même allé jusque dans chaque résidence, inciter les propriétaires à établir tous les meilleurs systèmes les plus modernes d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de son et tout ce que vous voulez. Les Anglais diraient « tout le kit » pour constater, 20 ans après le Concile, que malheureusement, le courant ne vient pas ou ne vient peu. Parce que les générateurs au barrage, les transmetteurs en cours de route et les transformateurs à la distribution, que sont les pasteurs, fonctionnent peu, fonctionnent pas. Fonctionne mal. Donc, on a tout pour bénéficier du pouvoir hydroélectrique. On a simplement été obsédé par le transport et la distribution et pas suffisamment par la production. En résumé, mes chers amis, et je pourrais dire en jeu de mots, notre approche du monde ou au monde est excellente. Mais notre accroche au Seigneur fait défaut. Et c'est dans cette accroche au Seigneur que doit venir le pouvoir qui vraiment nous donnera la lumière et la force. Donc, il ne s'agit pas pour nous de renoncer à notre souci d'être présent au monde. Il s'agit plutôt d'intensifier en même temps, pas l'un après l'autre ou l'un à la place de l'autre, mais en même temps que notre présence au monde, notre présence au Seigneur. Car c'est le Seigneur qui, par son pouvoir et sa grâce, et non pas nous comme tels, et non pas nos pastorales comme tels, c'est le Seigneur qui libère, convertit, guérit, sauve. Et par là même, nous rend encore plus présents au monde d'aujourd'hui. L'heure est donc venue de faire reposer un peu nos méninges et d'ouvrir nos cœurs. Se soucier moins ou consacrer moins de temps à l'ingénierie pastorale, à l'engineering pastoral, et consacrer plus de temps au recyclage spirituel d'ingénieurs accomplis. La vraie de vraie polyvalence du prêtre ou de l'évêque, comme de tout pasteur d'âme d'ailleurs, est surtout au niveau de sa qualité d'être spirituel, celle où le Seigneur est à l'œuvre au fond et à fond en lui, et non pas tant au niveau de son savoir-faire, de son savoir-dire ou de son savoir-agir. Le second est important, mais il dépend du premier. C'est la haute qualité d'être spirituel qui rend le pasteur d'âme désiré, accessible, apprécié, utile, efficace, adapté, percutant auprès de tous et au milieu de tous. Le Seigneur, par sa grâce, donne à chacun les compléments nécessaires à ses dires, ses gestes et ses initiatives. On pourrait même dire qu'il va par-delà nos paroles, nos lacunes et nos pauvretés en tant qu'émetteur, en ajustant lui-même par sa grâce, par sa touche divine, les postes récepteurs pour qu'ils perçoivent souvent plus et mieux que ce que nous avons transmis. Je sais que vous, comme moi, en avez mille et une preuves de cette action divine. Donc, ne cherchons pas de coupables, mais des solutions. On pourrait bien ouvrir tout un débat pour savoir qui est responsable, à qui la faute si nous, les prêtres, nous ne sommes pas encore plus saints que ça. Est-ce la faute des autres? Est-ce la nôtre? Est-ce que ce sont les deux? À mon avis, c'est un match nul. C'est vrai que d'un côté, nous avons été malmenés par les événements, par ces bouleversements sociologiques successifs, cette grande crise occidentale dans le monde, cette perte des valeurs. Il est vrai que nous avons été plus ou moins bien compris par les fidèles dans notre recherche d'une identité nouvelle. Et avouons que nous avons été inspirés peut-être trop timidement parfois par nos chefs de file, mais avouons en toute simplicité que de notre côté aussi, nous n'avons pas encore tout fait ce qui est possible et raisonnable pour donner à notre vie spirituelle son nouvel et plein essor. Mais ne généralisons pas, ne jugeons pas, contentons-nous de croire en terminant et d'affirmer qu'il est sûrement possible et souhaitable en Église d'aujourd'hui de nous ressaisir en tant que pasteurs d'âme et d'aller beaucoup plus en avant quant à notre qualité d'être spirituel. Le Seigneur, et c'est son droit, exige que son message, sa bonne nouvelle, soit transmise partout, pour tous et toujours, avec 100% de sa vérité et 100% de son amour. Cela, il va sans dire, exige de nous d'être des pasteurs bien trempés et pourquoi pas des saints et des saintes. Et voilà, passons maintenant à la grande question. Comment tout cela se fera-t-il? Et je voudrais, avant d'aller plus loin, relire avec vous quelques paragraphes de cette lettre fraternelle et publique que j'ai adressée aux évêques au mois d'août dernier. À la page 6, on lit ceci. Je pressens, et n'ai-je pas raison, que plusieurs, un peu comme la Vierge à l'annonce de l'ange, vont bientôt se poser la pertinente question suivante. Comment cela se fera-t-il? Je souhaite cependant de tout mon cœur que, comme Marie également, après s'être ressaisie, ils ou elles sauront s'en remettre entièrement à Dieu. Pour ne pas risquer le moindrement de farder la vérité ou de la diluer, je me dois à ce moment-ci de vous avouer que cela exige et exigera de nous une extraordinaire plongée dans la foi. Nous en savons personnellement quelque chose pour y avoir nous-mêmes consenti en 1975, dès le début des deux fondations. Et ce fut le début de cette merveilleuse aventure en Église que nous allons partager dans quelques instants. J'ajoute immédiatement, ce qui va en rassurer plusieurs, que le Seigneur répond toujours à un oui bien senti et donne à chacun et à chacune, par une avalanche continue de grâce, de moyens et de bienfaits, ce qui assure en nous l'aisance, la persévérance et le succès. C'est vrai de vrai, croyez-moi. Je laisse à Saint Bonaventure, qui a été à la fois un théologien d'une rare profondeur et un cardinal évêque renommé, donc un théologien qui a bien tourné, d'en évoquer en quelques mots tout le secret. Lisons et prions son message, tout y est. Et je cite Saint Bonaventure. Si tu cherches comment cela se produit, interroge la grâce et non le savoir. Ton aspiration profonde et non pas ton intellect. Le gémissement de ta prière et non pas ta passion pour la lecture. Interroge l'époux et non le professeur. Dieu et non pas l'homme. L'obscurité et non la clarté. Non point ce qui luit, mais le feu qui embrase tout l'être et le transporte en Dieu avec une onction sublime et un élan plein d'ardeur. Ce feu est en réalité Dieu lui-même, dont la fournaise est à Jérusalem. C'est le Christ qui l'a allumé dans la ferveur brûlante de sa passion. En cette traversée, si l'on veut être parfait, il importe de laisser là toute spéculation intellectuelle. Toute la pointe du désir doit être transportée et transformée en Dieu. Voilà le secret des secrets, que personne ne connaît sauf celui qui le reçoit, que nul ne reçoit sauf celui qui le désire, et que nul ne désire sinon celui qui, au plus profond, est enflammé par l'Esprit-Saint que le Christ a envoyé sur la terre. En proposant cette feuille de route, Bonaventure fait d'une pierre deux coups. Il nous trace à la fois l'itinéraire d'une âme vers Dieu et la démarche d'une Église en quête de son âme nouvelle, comme nous le sommes. Eh bien, mes chers confrères, vous qui êtes ici présents et vous qui m'entendez sur cette cassette, écoutez-moi bien. C'est vrai de vrai que c'est dans une attitude de confiance et abandon total au Seigneur qu'il faut chercher la revalorisation profonde de notre être spirituel. En affirmant et en appuyant et en citant ce texte de Bonaventure, croyez-moi, je n'ai pas perdu les pédales, mais au contraire, je les ai enfin retrouvées. Cet acte de foi, cette plongée dans la foi, qui remet entièrement notre vie entre les mains du Seigneur, ce n'est pas de la fantaisie, ce n'est pas du mirage, ce n'est pas de l'illuminisme. Ce n'est pas un rêve en couleur, c'est au contraire une réalité en couleur. Le Seigneur, vous savez, désire mordicus le renouveau à fond de son Église. Mais il sait fort bien, car il nous connaît, et connaît à fond nos limites, nos lacunes et nos besoins, que sans son intervention complète et directe, cette rénovation de l'Église ne serait pas possible. Il s'offre donc pour être le grand contracteur général de cette immense entreprise. Cette rénovation de fond en comble. Et de notre part, écoutez bien, il n'attend que deux choses très simples. Un oui bien senti, qui consiste à dire librement, en connaissance de cause, « Fais-le donc, Seigneur, vas-y à fond et au fond, je t'abandonne tout et tous. » Et deuxièmement, le ferme propos pratique de nous enlever de son chemin par la suite. Donc, je dis un oui bien senti. en connaissance de cause, tout à fait libre et de bonne grâce, et apprendre à nous enlever de son chemin. S'il y a une découverte que j'ai faite depuis 10 ans, c'est bien celle-là. On sait que le Seigneur a dit à ses apôtres et à ses disciples, « Laisse tout et suis-moi. » Il n'a pas dit « Cours devant moi, précède-moi, suis-moi. » Et sans s'en rendre compte, avec nos bonnes intentions, notre dévouement, notre zèle, notre souci de sauver le monde, on passe notre temps à penser, à nous dépenser et à repenser à sa place. Facilement, vous savez, on finit par se prendre pour la 4e personne de la Trinité. Le moment est sérieusement venu pour qu'on lui donne à lui toute sa chance en Église. Pas vrai? Tout à coup, il serait plus compétent et plus capable que nous. Le Père nous a envoyé Jésus nous assurer de son œuvre de salut. Et il a désigné Jésus comme la tête de l'Église. Ensuite, Jésus nous a assuré que l'Esprit-Saint serait l'âme de cette Église. Nous savons tout cela. Et pourtant, nous procédons souvent comme si nous étions des orphelins, obligés de nous débrouiller tout seuls en Église, nous contentant d'invoquer des bons souvenirs sur les origines de l'Église. Or, le Père, le Fils et l'Esprit sont bien vivants, bien présents et bien actifs dans l'œuvre du salut en cours, par et dans l'Église. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au juste? Eh bien là, asseyez-vous confortablement là, et permettez-moi ici une petite remarque. La solution proposée, celle que nous avons pu découvrir au cours de ces 10 dernières années, est archi simple, mais exigeante. Elle ne cesse d'étonner et de stupéfier moins, je dirais même de désarmer nombre de ceux et de celles avec qui je partage sur ce qui va suivre dans cet exposé. C'est là que je réalise à quel point dans notre société, et même en Église, on a perdu peu à peu, et sûrement, l'habitude des choses simples et claires. On en a même perdu, et je n'exagère pas, le goût, la possibilité d'y croire comme encore possible, vraie ou sérieuse. On est rendu qu'on entend de plus en plus souvent des gens qui nous disent, même dans les milieux d'Église, « Ah, ça se peut pas, c'est trop simple pour être vrai. » Or, le message de Jésus est ainsi. Jésus nous a donné un message archi-simple, mais très exigeant. Et c'est nous qui avons trouvé le moyen d'en faire un message compliqué et dilué. D'ailleurs, encore ça aussi, une des causes de cette course actuelle vers les sectes et les cultes. Beaucoup de gens s'en vont là parce qu'on leur propose une doctrine simple, mais exigeante. Ils sont fatigués et déçus de nos présentations doctrinales enchevêtrées, articulées, compliquées, subdivisées, et plus ou moins dilué. C'est un paradoxe, vous savez. Depuis Vatican II, là, d'une part, on a fait un de ces nettoyages en règle face à une foule de complications institutionnelles. Et, avouons-le aussi, on a frisé parfois le saccage et le vandalisme en allant trop vite. D'autre part, on s'est lancé, sans s'en rendre compte, dans une surenchère d'analyses, de dossiers qui nous conduisent lentement mais sûrement à toute une nouvelle kyrielle d'impératifs, d'absolus, de priorités, de complications nouveaux genres. On est en train de trouver le moyen de nous réencombrer encore une fois à bien des points de vue. Pauvre de nous. On a donc de la misère à être et demeurer des enfants libres, spirituellement libres, comme notre Père nous a créés. Eh bien, ce qu'on a appris auprès de lui et vécu expérimentalement sous son regard depuis 9 ans et demi, je vous le dis, vous allez trouver ça simple, archi-simple et clair comme le jour. C'est facile à comprendre sans titre académique. C'est exigeant à vivre, oui. Mais, là encore, c'est lui qui nous l'enseigne, qui nous guide, qui nous encourage, qui nous soutient, qui nous conduit à bon port. Dans ce que je vais partager avec vous, je vous le confesse tout de suite, je ne vous apprendrai rien de neuf en soi, mais du neuf en moi. Et espérons que ce sera du neuf en toi. Ce que nous avons appris, c'est du christianisme décapé, où le Seigneur est venu faire tomber les 36 couches de vernis de trop et nous a reconduits à ce message de Jésus, simple et exigeant. Donc, à l'original, à l'authentique. Et ici, j'entre directement dans le partage de mon vécu personnel comme tel. Et je dis le mien et celui de cette multitude de personnes qui ont consenti volontairement à expérimenter ce nouveau style de vie et d'action en Église. Alors ici, là, je m'excuse d'avance, chers confrères, chers amis, de l'emploi occasionnel du « je » ou du « nous ». Et je vous redis cette remarque préliminaire, je ne me sens pas supérieur à qui que ce soit, mais seulement un grand chanceux qui se meurt de partager la joie de cette découverte, de cette expérience. Et nous ne pouvons pas taire ce vécu parce que nous croyons qu'il y a là une toute nouvelle autoroute de croissance pour l'Église actuelle. Je précise également que nous n'avons pas cherché ces options que je vais vous présenter dans des grands livres, dans des archives, à la suite d'analyses ou de discussions intellectuelles, même si j'ai rien contre tout ça, mais exclusivement en sa présence, à son école, je devrais plutôt dire à son université ou à son universalité. Comment tout cela a commencé dans mon cas? J'avais quitté le secrétariat de l'Épiscopat canadien à la fin d'avril 1975. Et j'avais demandé aux autres membres de notre équipe, à ce moment-là, 4 prêtres et une dame laïque, pendant 2 ans, je vous demande juste une chose. Pas de réunion, pas de paperasse, pas de course ici et là. Branchons-nous sur le Seigneur. Faisons l'acte de foi à fond et croyons que c'est lui et lui seulement qui va nous donner sa mission. Je sens peut-être le besoin ici pour ceux qui ne me connaissent pas de rappeler brièvement qu'à ce moment-là de ma vie, depuis le début, j'étais un homme naturellement porté à l'analyse, à l'étude, à la recherche. Le type de pasteur, organisateur, planificateur. Et dans des mémoires, même à l'épiscopat, j'avais souvent déploré nos méthodes trop artisanales en Église. Nos discussions qui mènent nulle part, nos solutions à trop court terme, parfois rachitiques. Donc j'étais pour des plans élaborés et à longue portée. Et j'ai toujours été un ardent défenseur de l'utilisation maximale de nos talents personnels. J'en ai donc donné des belles conférences sur l'utilisation de ces talents reçus du Seigneur. Quand j'ai donné ma démission à la fin d'avril 1975, comme vous le trouvez rappelé dans la brochure, la raison publique, officielle, ça a été de prendre charge de la fondation Pax Vobis. Mais il y a eu une autre raison, non publiée, mais que j'ai confiée à bon nombre de mes collègues et amis, et c'était celle-ci. Me retirer au désert pour prier plus intensément et m'accorder tout le temps et le recul nécessaire pour chercher auprès du Seigneur, au Saint-Sacrement, une réponse valable, neuve et stimulante. Sa réponse, bien à lui, à l'importante question suivante, qui ne cessait de me hanter depuis nombre d'années. Et je la relis avec vous, cette question, parce qu'elle est le point de départ de tout ce qui va suivre. La question, la voici. Je l'avais mise par écrit et elle m'a accompagné depuis lors. Comment se fait-il que notre Église, même au lendemain de Vatican II, avec toutes ses ressources spirituelles, humaines et matérielles, son énorme déploiement apostolique, sa multitude de communautés, d'œuvres et d'institutions, ses équipes de recherche et de pastorale pourtant compétentes, son membership aussi considérable et l'extraordinaire dévouement de tant de ses dirigeants et fidèles, comment se fait-il que notre Église n'a pas plus d'impact, de leadership, bref, de rentabilité spirituelle dans notre monde d'aujourd'hui? Tant d'efforts et toute proportion gardée, beaucoup moins de résultats. Qu'est-ce donc au juste qui nous ou lui manque à cette Église? Fin de la question. Eh bien, un an et demi s'est écoulé, et malgré nos prières, nos efforts, je demeurais toujours suspendu à la recherche de la grande réponse à cette question. Et ce qui a été pour moi le coup de grâce, la rampe de lancement, le jour le plus extraordinaire de ma vie, se situe en septembre 1976. Alors que le seul membre laïc de notre équipe, Isabelle Gauvin, me dit, au cours de l'avant-midi de ce jour, « Tu sembles inquiet. Tu ne sembles pas dans ton assiette. » Et là, ça fait sauter la marmite. J'ai dit, « Mais comment veux-tu que je sois dans mon assiette? Ça fait un an et demi qu'on prie et qu'on demande au Seigneur qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas dans son Église et qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse à la Fondation Pax Vobis. Et plus ça va, moins ça va. Et là-dessus, elle me dit tout bonnement, « As-tu tout donné au Seigneur? » Et là, j'ai bondi. « Comment? Donner au Seigneur, j'ai tout donné. Je lui ai donné ma santé, je lui ai donné mes biens, je lui ai donné mon travail, je lui ai donné ma réputation, j'ai tout donné. Qu'est-ce que tu veux que je donne de plus? » Et elle me regarde avec un grand sourire très pacifié et pacifiant. Et elle me dit, « Tout, as-tu tout donné au Seigneur? » Et elle me suggère à ce moment-là, « Viens, nous allons aller prier devant le Saint-Sacrement. » Et alors là, plongés tous les deux dans un grand recueillement, je cherchais au fond de moi-même qu'est-ce que je pouvais bien ne pas avoir donné au Seigneur. Il y avait une couple de pensées qui me venaient à l'esprit, mais n'étaient pas portées à les retenir. Et c'est après une dizaine de minutes de ce recueillement qu'elle se tourne vers moi et elle dit, sans doute en vertu d'une grâce privilégiée ou d'un charisme qu'elle avait, elle me dit, « Les deux choses auxquelles tu penses, pourquoi ne les donnes-tu pas au Seigneur? » Alors j'ai été surpris d'abord de voir qu'elle semblait lire ce que je vivais, et je lui dis tout simplement, « Mais écoute, après 29 ans de sacerdoce, c'est normal que j'aie une idée du bien à faire pour le Seigneur. » Et elle me dit, « Crois-tu que ton idée est meilleure que la sienne? » J'ai dit, « Pas seulement j'ai une idée du bien à faire pour le Seigneur, mais j'en suis arrivé à certaines convictions sur la meilleure manière de servir le Seigneur comme prêtre. » Et elle me répète la même chose, « Crois-tu que ta manière est meilleure que la sienne? » Et là, touché, à deux reprises, je réagis en me disant, « Oui, mais c'est tout ce qui me reste. » Et dès que je me suis entendu dire, « C'est tout ce qui me reste. » Le déclic s'est fait. Il y avait encore deux choses que je n'avais pas données au Seigneur. Et je me suis surpris, comme un petit enfant, à dire, « Seigneur, la conception du bien à faire que j'ai, jusqu'à ce jour, je te la donne, je me mets à zéro. Si tu en as une meilleure ou une nouvelle, enseigne-la-moi. Et mes méthodes apostoliques, mes méthodes d'exercice de mon sacerdoce, je te remets tout. » Je vous avoue que, à ce moment-là, j'ai connu une grande détente. Mais la journée n'était pas finie. Au cours du même jour, au milieu de l'après-midi, cette même dame me dit, « Tu sais, ne sois pas inquiet. Tu es sur le bon boulevard, le boulevard des bons prêtres. Tu n'as pas cherché un nouveau boulevard, une nouvelle avenue. » Alors j'étais un peu valorisé à ce moment-là, mais elle ajoute immédiatement, « Tu es sur le bon boulevard, mais tu t'en vas pas dans la bonne direction. » J'ai dit, « Comment ça? » Elle dit, « Tu t'en vas dans la direction d'une perfection que tu veux contrôler toi-même. Tu veux comprendre, approfondir, analyser pour être sûr de ne pas te tromper et devenir un saint prêtre. » A dit, tu suis la route du mental. Elle dit, je te dis bien simplement, ça va être très long, ça va être très compliqué. Les doutes, les hésitations, les délais vont s'accumuler les uns après les autres. Pourquoi tu ne ferais pas un virage en U, un U-turn? Reste sur le même boulevard, mais va-t'en, non pas dans la direction du mental, et elle a fait le jeu de mots, va-t-on dans la direction de l'expérimental, de la simplicité. Demande au Seigneur de te rendre simple comme un enfant, de cette simplicité spirituelle qui est le chef-d'œuvre de l'intelligence et de la maturité. Là, ce qui va arriver, c'est que le Seigneur va prendre tout en main. Il va te faire goûter à ses plats, à ses vérités. Et c'est seulement après qu'il t'en donnera la recette. Fais-lui confiance. Là, tu ne veux pas rien tenter avant de connaître la recette. Dans l'autre direction, c'est lui qui va t'y faire goûter. Et là, après ça, je t'assure qu'après l'expérimental, il va éclairer ton mental. Et tu pourras un jour l'expliquer aux autres. Et c'est ça qui a été pour moi, mes chers amis, je vous le confesse publiquement, la plaque tournante de ma vie sacerdotale. Et ce jour, j'ai accepté, je lui ai tout abandonné ce que j'avais, et j'ai accepté de tout apprendre de lui ce que je devais être. Je suis passé du verbe avoir au verbe être. Et entre les mains même, de celui qui m'avait créé et racheté et voulait m'achever et me parfaire. Isabelle avait à ce moment-là ajouté, quand elle a vu que j'ai pu prendre cette option, et je n'en ai pas d'autre mérite que d'avoir répondu à la grâce évidente du Seigneur à ce moment-là, elle a dit, c'est par et dans cette simplicité que tu vas expérimenter, goûter toute sa puissance, sa logique, son amour et sa miséricorde. Bref, redécouvrir, approfondir, apprécier, savourer la hauteur, la largeur, la profondeur de ses vérités et de sa vie divine. Mes chers amis, mon premier réflexe à ce moment-là, j'étais tellement heureux d'avoir pris cette option de simplicité, que je m'adresse immédiatement à Isabelle et je lui dis, alors qu'est-ce que je dois faire là, pour devenir simple? Et du tic au tac, elle me répond. Surtout, ne t'en mêle pas. Aujourd'hui, je ne peux donc pas vous expliquer ce que j'ai fait à ce moment-là. Mais 8 ou 9 ans après, je peux peut-être vous confier ce que lui a fait à la suite de cette double option. Je ne pourrai pas vous donner des dates et des étapes précises. Mais je suis conscient, hors de tout doute, que ma vie, à partir de ce jour, a été transformée de A à Z, quant à ma façon de penser, de vivre et de me comporter en Église. Je vais vous en donner rapidement quelques exemples. Évidemment, je ne pourrai pas développer ça trop longuement. Mais j'ai constaté assez rapidement que j'ai cessé de questionner tout et tous, de raisonner toutes les situations, de discuter, d'affronter, de vouloir tout comprendre et démontrer. J'en ai même très tôt découvert ce que je n'avais jamais perçu dans ma vie jusque-là, les funestes conséquences, les pertes de temps inouïes, l'esprit du monde qui s'infiltre dans notre manie de tout raisonner, de tout analyser, de tout scruter. J'en ai même perdu le goût. La conséquence suivante, c'est que j'ai connu une grande détente dans ma vie, une grande disponibilité, qui m'ont permis de redécouvrir tellement plus simplement et clairement la saveur, l'attrait, la puissance et l'impact du message de Jésus, de l'amour et de la tendresse du Père, et de la puissance de leur esprit. C'est vrai de vrai, vous savez. Le Seigneur nous a fait vivre, aux autres comme à moi, mais à sa manière douce, dosée, respectueuse de nos délais, une désintoxication profonde et définitive, du moins je le crois. Il est venu par sa grâce, discrètement mais sûrement, chasser de ma demeure intérieure toute cette tendance exagérée, pour ne pas dire cette frénésie que j'avais, disons-le, du raisonnement, de l'argumentation, de l'organisation, de la planification, de l'institutionnalisation, de la réglementation, de la production. Il m'a montré que ces choses étaient encore bonnes, mais qu'elles étaient comme des condiments, qui sont là seulement pour relever le goût des plats importants, et non pour en ruiner ou en détourner la saveur. Aujourd'hui, quand j'assiste à des réunions ou des sessions, et quand je lis parfois certains de nos textes en Église, quand je reçois certains de mes amis et confrères en entrevue, mon Dieu, que je revis donc douloureusement mon soi-disant bon vieux temps où j'aimais ça argumenter, trouver le bon mot, discuter, tout régler. Je trouve donc que la ratiocination emmène encore bien large dans tous nos milieux ecclésiastiques. C'est pas possible. On a donc le don de se rendre la vie compliquée, stressée, inquiétante. C'est pas croyable, mes amis. Mais que cela se passe dans le monde, c'est regrettable. Mais que cela se passe en Église, qui est l'agent numéro un de paix, et donc de calme, de joie, d'amour et de simplicité sur terre, c'est à mon avis infiniment regrettable. Je dirais même honteux à certains points de vue.